Chapitre 29. Lorsqu'Armand immobilisa le Sony 1 mètre au-dessus du sol devant la porte de service du château, il vit Petyr se diriger vers lui. « Je viens avec vous !» annonça le jeune homme. Il avait endossé sa cape de voyage, bouclé son ceinturon, auquel étaient passés une épée et un poignard, et fixé sur son épaule son arc fait main et un carquois rempli de flèches. « J'ai déjà expliqué à Daiman, » commença Armand en se redressant sur un coude, allongé sur la couchette centrale avant du disque volant. « Oui, et tu avais raison. Pour ce qui est de Daiman, il est encore sous le choc après la mort de sa mère, et le travail d'organisation que tu lui as confié l'aidera à se ressaisir. Mais tu as besoin d'un autre équipier. Anna est suffisamment robuste pour t'aider à porter la civière de personne, mais vous aurez besoin de quelqu'un pour vous couvrir. On a besoin de toi ici. » Petyr le coupa à nouveau. La voix du jeune homme barbu était posée, mais son regard intense. « Non, Armand Ur. On a besoin du fusil à fléchette, et je le laisse ici, ainsi que les chargeurs restants. Mais on n'a pas besoin de moi. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 24 heures, tout comme toi, et il me faut 6 bonnes heures de sommeil avant d'être en état de monter la garde. Si j'ai bien compris, tu as dit à Ada Ur que vous seriez de retour dans quelques heures? On devrait... » Armand laissa sa phrase inachevée. Anna, Ada, Cyrus et Tom venaient de sortir, portant une civière sur laquelle était allongé Odysseus Person. Le mourant était enveloppé d'épaisses couvertures. Armand descendit du Sony pour l'installer sur la couchette centrale arrière. Le Sony maintenait ses passagers en place au moyen de champs de force directionnels, mais chaque couchette était aussi équipée d'un filet permettant d'arrimer les objets inanimés, et Anna et Armand le déployèrent autour de Person. Leur ami risquait de mourir avant leur arrivée au Golden Gate, et Armand ne souhaitait pas que son corps tombât de l'appareil. Il reprit place dans sa couchette. « Petyr nous accompagne, » annonça-t-il à Anna. Elle semblait indifférente à cette nouvelle, obnubilée qu'elle était par le mourant. « Petyr, » reprit Armand, « couchette arrière gauche. Garde ton arc et ton carquois à portée de main. Anna, couchette arrière droite. Déployez les filets de sécurité. » Ada fit le tour du Sony, se pencha au-dessus de sa surface métallique et embrassa Armand. « Viens avant cette nuit où il va t'arriver des bricoles, » murmura-t-elle. Puis elle regagna l'intérieur du manoir, Tom et Cyrus sur les talons. Armand s'assura que tout s'était bien maintenu en place, y compris lui-même, puis il plaça ses 2 paumes sous le rebord du Sony, activant la console holographique. Il visualisa 3 cercles verts inscrits dans 3 cercles rouges. Sa paume gauche émit une lueur bleue et un impossible diagramme de trajectoire se superposa à son champ visuel. « Destination, le Golden Gate à Machu Picchu ?» demanda la machine de sa voix atone. « Oui, » dit Armand. « Itinéraire le plus rapide ?»« Oui. » « Paré à décoller ?»« Oui, go !» Les champs de force pesèrent sur eux. Le Sony passa en accélérant au-dessus de la palissade et des arbres, adopta une trajectoire quasi verticale et franchit le mur du son avant d'avoir atteint 2000 pieds d'altitude. Ada n'assista pas au départ du Sony et lorsque le bang secoua la maison, elle avait vécu cela des centaines de fois durant le bombardement météorique de la chute, sa seule réaction fut de prier Oéléo, chargé des tâches ménagères pour la semaine, de recenser les carreaux cassés et de les réparer au mieux. Elle attrapa un châle sur son porte-manteau et sortit dans la cour se dirigeant vers le portail principal. Tout autour d'elle, l'herbe de sa splendide pelouse, désormais reconvertie en pâture et en abattoir, portait de multiples traces de roues et de voynix, à présent figées par le gel. Les ornières rendirent sa progression difficile. Une flotte de droski tractés par des bœufs allait et venait à la lisière de la forêt pour évacuer les cadavres de voynix. Le métal de leur carapace serait fondu pour fabriquer des armes, le cuir de leur capuche découpé et recousu pour façonner des vêtements et des boucliers. Ada s'arrêta un instant auprès de Kaman, naguère l'un des premiers disciples d'Odysseus, qui extrayait des carreaux d'arbalète d'une carcasse de voynix au moyen d'une pince qu'Anna avait conçue et forgée à cet usage. Il les amassait dans un seau en attendant de les nettoyer et de les aiguiser. Le plateau du droski, les mains gantées de Kaman et le sol encore gelé étaient bleuis par le son voynix. Ada progressa le long de la palissade, en franchissant les portes de temps en temps pour discuter avec les gens, rappelant à ceux qui avaient passé la matinée sur les remparts qu'un petit déjeuner les attendait, puis grimpa jusqu'au cubilot pour bavarder avec Loès et assister aux derniers préparatifs du moulage de ce matin. Elle feignit de ne pas voir Aimé et ses trois jeunes acolytes armés d'arbalètes qui la suivaient discrètement à 30 pas de distance, fouillant la forêt du regard, le doigt crispé sur la détente de leurs armes. Ada se rendit à la cuisine et consulta sa fonction horloge. Arman était parti depuis 39 minutes. Si ce stupide Sonny avait dit vrai, et elle avait peine à y croire ayant gardé un vif souvenir du long périple qui les avait conduits du Golden Gate jusqu'à Ardis en passant par une forêt de séquoia située dans le Texas, il était arrivé à destination. 1 heure pour dénicher cette fameuse crèche de soins, ou à tout le moins pour loger le malheureux personne dans un sarcophage temporel, et son bien-aimé serait rentré avant le déjeuner. Demain, se rappela-t-elle, ce serait son tour de préparer le dîner. Remettant son châle en place, elle monta dans sa chambre, la chambre qu'elle partageait désormais avec Arman, et referma la porte. Un peu plus tôt, elle avait glissé dans la poche de sa tunique le turin rapporté par Daiman, et elle l'en retira et le déplia. Arman n'avait presque jamais coiffé le turin. Daiman n'y avait consenti que rarement. Avant la chute, il s'appliquait avant tout à séduire les jeunes femmes, mais Ada se rappelait aussi sa passion pour les papillons, qu'il chassait sans trêve ni repos dans les prés et les forêts d'Ardis lorsqu'il y venait en visite. En théorie, Ada et lui étaient cousins, un terme sans grande signification dans ce monde qui s'était éteint 9 mois plus tôt. C'était une sorte de titre honorifique, accordé par les femmes qui étaient amies depuis longtemps, comme si elles voulaient faire comprendre à leurs enfants qu'il existait entre eux une relation sortant de l'ordinaire. Maintenant qu'elle attendait elle-même un enfant, Ada se demandait si sa mère et celle de Daiman, décédées toutes les deux, se rappela-t-elle avec un pincement au cœur, n'avaient pas élu le même donneur de sperme à plusieurs années d'intervalle. Cette idée la fit sourire, et elle se félicita de ce que le Daiman de Naguère, ce jeune polisson bedonnant, n'ait jamais réussi à la séduire. Non, ni Arman ni Daiman n'avaient passé beaucoup de temps sous le Turin, contrairement à Ada. 11 ans durant, elle s'était passionnée tous les jours ou presque pour les images sanglantes de la guerre de Troie. Elle adorait la violence et l'énergie de ces personnages imaginaires. Pas si imaginaires que cela en fait, comme elle l'avait découvert en rencontrant un Odysseus bien réel, quoique un peu vieilli, dont la langue barbare, que le Turin lui traduisait sans qu'elle comprenne comment, lui faisait l'effet d'une drogue. Ada s'allongea sur son lit, posa le carré de tissu sur son visage, veillant à ce que les micro-circuits soient en contact avec son front, et ferma les yeux sans vraiment espérer un résultat. La nuit. Une tour de Troie. Ada sait qu'elle se trouve à Troie, à Ilium, car elle a contemplé les bâtiments de la ville plusieurs milliers de fois au fil de la décennie écoulée, y compris en pleine nuit, mais jamais elle ne les a vus sous cet angle. Elle se trouve dans une tour fracassée dont le mur sud a été emporté, et 2 personnes sont assises à quelques mètres d'elle, blotties sous une couverture et se réchauffant à un pauvre feu de braise. Elle les reconnaît tout de suite. Hélène et Ménélas, son ancien époux. Mais elle ignore comment ils ont pu se retrouver ici, à l'intérieur des remparts, en train de contempler les portes scellées et le combat qui fait rage devant elle. Qu'est-ce que Ménélas fabrique ici? Et comment se fait-il qu'il partage une couverture, ou plutôt une cape de guerrier, voit-elle? Avec Hélène? Cela fait 10 années que les Achéens donnent l'assaut à cette cité dans le but de capturer ou de tuer cette femme. De toute évidence, c'est ce qu'ils s'efforcent de faire en ce moment même. Ada fait pivoter sa tête inexistante pour altérer son champ visuel, cette séance de Turin ne ressemble en rien à celle qui l'ont précédée, et contemple bouche bée les remparts et les portes C.
On dirait la bataille que nous avons livrée cette nuit à Ardis, songe-t-elle, manquant s'esclaffer de cette comparaison.
En lieu et place d'une palissade branlante de 4 mètres de haut, Ilium est entouré de murailles hautes de 30 mètres et épaisses de 6, avec tout un déploiement de tourelles, de poternes, d'embrasures, de tranchées, d'épieux acérés, de douves et de parapets. Elle n'est pas assiégée par 100 de voïniks silencieux, mais par 10 000 000 de Grecs hurlants, rugissants et vociférants. Torches, feux de camp et flèches enflammées illuminent cette horde de héros sur des kilomètres et des kilomètres, dont chaque division possède ses rois et ses capitaines, ses échelles et ses chars, et livre sa propre bataille au sein du conflit global. Là où le château d'Ardis compte 400 âmes, les guerriers de cette cité, elle en distingue des milliers, archers et piquiers mélangés, rien que sur les escaliers et les parapets de la muraille sud, se battent au nom de 100 000 civils terrorisés, parmi lesquels leurs femmes, leurs filles, leurs fils en bas âge et leurs parents invalides. Alors qu'ici, seul le Sony d'Arman survole parfois le champ de bataille, Ada découvre dans le ciel plusieurs douzaines de chars volants, tous protégés par un champ de force, dont les divins occupants projettent des lances d'énergie et des flèches de foudre dans l'enceinte de la cité ou sur les hordes qui l'assaillent. Depuis qu'elle a coiffé le Turin pour la première fois, jamais Ada n'a vu autant de dieux olympiens participer au combat. En dépit de la distance qui la sépare d'eux, elle reconnaît Arès, Aphrodite, Artémis et Apollon, qui luttent dans le camp des Troyens, et Érée, Athénée, Poséidon et quelques autres, moins connus, qui soutiennent les Achéens dans leurs efforts. Pas un signe de Zeus.
Les choses ont bien changé en 9 mois, se dit Ada. Hector n'est pas sorti de ses appartements pour mener les hommes au combat,
murmure Hélène à Ménélas. Ada se tourne à nouveau vers eux. Ils sont blottis l'un contre l'autre sur cet étage à ciel ouvert, penchés au-dessus d'un minuscule feu de camp que la cape rouge du fils d'Atrée rend invisible depuis la rue.
C'est un couard, décrète Ménélas.
Tu sais bien que non. Depuis le début de cette folie guerrière, nul homme ne s'est montré plus courageux qu'Hector, fils de Priam. Porte le deuil.
De qui ? Raille Ménélas. De lui-même. Il ne lui reste plus que quelques heures à vivre.
D'un geste large, il désigne les hordes d'Achéens qui convergent sur Troie de toutes parts. Hélène contemple la scène.
Crois-tu que cette attaque connaîtra le succès, mon époux ? Elle me paraît bien mal coordonnée. Et je ne vois aucun engin de guerre.
Grognement de Ménélas.
Ouais. Peut-être que mon frère s'est un peu trop précipité. La confusion règne dans nos rangs. Mais si l'attaque de cette nuit échoue, celle de demain réussira. Ilium est condamné.
Il le semble bien,
murmure Hélène.
Mais elle l'a toujours été, n'est-ce pas? Non, Hector ne pleure pas sur son sort, mon noble époux. Il pleure Scamandrios, son fils assassiné, et regrette qu'ait pris fin la guerre contre les dieux qui lui aurait permis de le venger.
Cette guerre était une pure folie, grommelle Ménélas. Les dieux auraient pu nous détruire ou nous chasser de ce monde, comme ils l'ont fait de nos familles restées à la maison.
Ainsi, tu crois ce qu'a dit Agamemnon ?
Chuchote Hélène.
Tout le monde a vraiment disparu ?
Je crois ce que Poséidon, Érée et Athénée ont dit à Agamemnon. Les dieux nous rendront nos familles, nos amis, nos esclaves et le reste du monde lorsque les Achéens auront rasé Ilium.
Penses-tu que les dieux immortels soient capables de faire une telle chose, mon époux? Enlever tous les êtres humains de notre monde?
Certainement, répond Ménélas. Mon frère ne ment jamais. Les dieux lui ont dit que sa disparition était de leur fait, et il a bien vu que nos cités étaient vides. En outre, j'ai parlé à ceux qui l'ont accompagné dans son voyage. Toutes les fermes, toutes les maisons du Péloponnèse sont... Chut ! Voilà quelqu'un.
Il disperse les braises d'un coup de pied, pousse Hélène dans l'ombre et l'épée à la main se place dans un coin où on ne peut le voir depuis l'escalier. Ada entend le bruit des sandales sur les marches. Un homme qui lui est inconnu, sa tenue est celle d'un guerrier achéen, mais il a l'air moins colossal, moins brutal que tous les soldats qu'elle a pu voir à ce jour. Émerge de l'escalier pour s'avancer à découvert. D'un bond, Ménélas plaque l'intrus contre le mur, l'empêchant de lever les bras, et lui pointe son épée sur la gorge, prêt à lui trancher la jugulaire d'un seul coup.
« Non !»
s'écrie Hélène. Ménélas se fige.
« C'est mon ami, Oconberry !»
Ménélas marque une pause, mais son visage reste résolu et son bras tient fermement son épée. Puis c'est l'épée de l'intrus qu'il tire vivement de son fourreau pour la jeter au loin. Il l'étend sur le sol d'une bourrade et se dresse au-dessus de lui.
« Oconberry ? Le fils de Dian ? »
gronde-t-il.
« Je t'ai souvent vu en compagnie d'Achille et d'Hector. Tu es arrivé en même temps que les êtres mécaniques. »«
Oconberry ?»
se dit Ada. Jamais on n'a prononcé ce nom dans l'épopée du Turin.
« Non !»
fait Oconberry en se frictionnant la gorge et le genou.
« Je suis ici depuis des années en observateur, mais je ne me suis manifesté qu'il y a 9 mois, lorsqu'a débuté la guerre contre les dieux. »« Tu es un ami de cet enfoiré d'Achille, »
jette Ménélas.
« Tu es un laquais de mon ennemi, Hector, » dont le destin a été scellé aujourd'hui. Tout comme le tien. Non !
S'écrie à nouveau Hélène en lui saisissant le bras.
Hockenberry est un favori des dieux. C'est aussi mon ami. C'est lui qui m'a appris l'existence de la tour où nous nous trouvons. Et tu as dû le voir emporter Achille en se rendant invisible, voyageant ainsi que le font les dieux grâce aux médaillons qu'ils portent autour du cou.
Oui. Mais un ami d'Achille et d'Hector est forcément mon ennemi. Il nous a découverts. Il va révéler notre cachette aux Troyens. Il doit mourir.
Non !
Répète Hélène une troisième fois. Ses doigts blancs semblent minuscules sur l'avant-bras bronzé et velu de Ménélas.
Hockenberry est la solution à notre problème, mon époux.
Ménélas la regarde sans comprendre. Hélène désigne la bataille qui fait rage au dehors. Les archers lâchent leurs flèches par centaines, non, par milliers. Les Achéens désorganisés foncent avec leurs échelles, battent en retraite lorsque les traits déciment leurs rangs. Les derniers soldats troyens présents dans les retranchements se battent vaillamment, tandis que les chars achéens tombent à grand fracas dans les chausse-trappes, que les chevaux percés par les pieux hurlent de douleur, et même les dieux partisans de la cause achéenne, Athénée, Érée et Poséidon, reculent devant la fureur des principales déités rangées dans le camp des Troyens, Arès et Apollon. Les flèches d'énergie violette du dieu à l'arc d'argent déferlent sur les Achéens et leurs alliés immortels, et hommes et cavales tombent comme le blé sous la faux.
« Je ne comprends pas, » maugrait Ménélas. « En quoi ce minable peut-il nous être utile ? Son épée n'est même pas affûtée !»
Sans lâcher le bras de son mari, Hélène s'agenouille avec grâce et soulève le lourd médaillon doré qui pend à la gorge d'Hockenberry.
« Il peut nous conduire en un instant aux côtés de ton frère, mon époux chéri. Il représente notre salut, notre seul moyen de sortir d'Iliope. »
Ménélas plisse les yeux. Il vient de comprendre.
« Écarte-toi, mon épouse. Je vais lui couper la gorge et son médaillon sera à nous. »«
Je suis le seul à pouvoir m'en servir, » dit Hockenberry à voix basse. « Les morts avec eux-mêmes, en dépit de leur ingénierie de pointe, n'ont pu ni le dupliquer ni le faire fonctionner. Le médaillon TQ est calé sur mon ADN et mes ondes cérébrales. »«
C'est la vérité, »
murmure Hélène.
« C'est pour cela qu'Hector et Achille tenaient toujours le bras d'Hockenberry quand ils voyageaient avec lui grâce à la magie des dieux. »«
Relève-toi. » ordonne Ménélas.
Hockenberry s'exécute. Ménélas n'est ni aussi grand que son frère, ni aussi bien bâti qu'Odysseus ou Ajax, mais ses muscles et sa masse lui donnent des allures de dieu par contraste avec la maigreur et la bedaine de cet Hockenberry.
« Emmène-nous là-bas, fils de Duane, devant la tente de mon frère sur la plage. »
Hockenberry fait nom de la tête.
« Cela fait des mois que je n'ai pas utilisé le médaillon Técu, fils d'Atrée. » D'après ce que m'ont dit les morts avec, les dieux sont capables de me suivre à la trace dans ce qu'on appelle l'espace de Planck au sein de la matrice de Calabillo, le néant qu'ils parcourent pour aller d'un lieu à l'autre. J'ai trahi les dieux, et ils me tueraient si je recommençais à me téléporter.
Ménélas se fend d'un sourire. Il lève son épée, la pointe sur le ventre d'Hockenberry, et fait couler un peu de sang sous sa tunique.
Je te tue tout de suite si tu t'obstines, pauvre con. Et je déviderai tes tripes pour faire durer le plaisir.
Hélène pose sa main libre sur l'épaule d'Hockenberry.
Mon ami, regarde donc la bataille qui se déroule au pied des remparts. Cette nuit, les dieux sont tous à leur meurtrière besogne. Vois Athénée battre en retraite avec son armée d'Érinyès. Vois le puissant Apollon dans son char qui foudroie de ses traits les Grecs affolés. Personne ne te remarquera si tu te tais, Hockenberry.
Le malheureux se mordit les lèvres. Contemple un moment les combats, les Troyens ont visiblement l'avantage, et de nouveaux soldats jaillissent des poternes pour venir grossir leur rang, et Ada distingue parmi eux Hector à la tête de ses troupes d'élite.
D'accord, fait Hockenberry. Mais je ne peux vous técu qu'un par un.
Nous emmènera tous les deux, gronde Ménélas.
Hockenberry secoue la tête une nouvelle fois.
Je ne peux pas. J'ignore pourquoi, mais le médaillon Técu ne me permet de téléporter qu'une seule personne à part moi-même. Si tu m'as vu voyager ainsi avec Achille et Hector, tu as remarqué que je ne partais jamais avec les deux en même temps, que je revenais chercher le second après avoir conduit le premier à destination.
C'est la vérité, mon époux,
intervient Hélène.
Je l'ai vu de mes yeux.
Alors commence par emmener Hélène, dit Ménélas. Conduis-la devant la tente d'Agamemnon sur la plage, près de l'endroit où les nefs noires sont échouées sur le sable.
On entend des cris dans la rue en contrebas, et tous trois se réfugient dans l'obscurité. Hélène éclate de rire.
« Ménélas, mon très cher époux, ce n'est pas possible. Je suis la femme la plus détestée des Argiens et des Achéens. Même si mon ami Auchenberry ne devait mettre que quelques secondes à aller te chercher après m'avoir déposé, les gardes d'Agamemnon, voire les premiers Grecs venus, reconnaissant la salope que je suis, me transperceraient de leurs lances. C'est toi qui dois partir le premier. Tu es mon seul protecteur. »
Ménélas opine et referme sa main sur le cou d'Auchenberry.
Sers-toi de ton médaillon. Et vite.
Avant de s'exécuter, Auchenberry lui demande « M'épargneras-tu si je t'obéis ? Me laisseras-tu repartir ?»«
Évidemment !»
gronde Ménélas. Mais Ada le voit échanger avec Hélène un regard qui en dit long.
« Mon époux Ménélas ne te fera aucun mal. Je t'en donne ma parole. Vite, dépêche-toi de te técu. J'ai cru entendre un bruit de pas dans l'escalier. »
Auchenberry agrippe le médaillon doré, ferme les yeux, le fait tourner, et Ménélas et lui disparaissent dans un souffle d'air. Durant une minute, Ada reste seule avec Hélène de Troie au sommet de la tour tronquée. Le vent se lève, traversant en sifflant les murs éventrés et apportant jusqu'à elle les cris des Grecs battant en retraite et des Troyens qui les poursuivent. On entend retentir des vivats dans la cité. Soudain, Auchenberry réapparaît.
« À ton tour, » dit-il en posant une main sur le bras d'Hélène. « Tu avais raison. Aucun dieu ne m'a poursuivi. Le chaos règne en maître cette nuit. »
Il désigne le ciel sillonné de chars volants et de traits d'énergie pure. Alors qu'il va activer son médaillon, il marque une pause.
« Tu es sûr que Ménélas ne me fera aucun mal quand nous nous retrouverons là-bas, Hélène ?»«
Il ne te fera aucun mal. »
Elle semble presque distraite, comme si elle entendait effectivement un bruit de pas dans l'escalier. Ada n'entend que le vent et les cris dans le lointain.
« Attends une seconde, Auchenberry. Je me dois de te dire que tu as été un bon amant et aussi un bon ami. Je t'aime beaucoup. »
Auchenberry déglutit.
« Je t'aime beaucoup aussi, Hélène. »
La femme aux cheveux noirs sourit.
« Je ne compte pas rejoindre Ménélas, Auchenberry. Je le hais, je le crains. Plus jamais je ne me soumettrai à lui. »
Auchenberry tique, puis se tourne vers les lignes achéennes. Les guerriers se regroupent derrière les chausse-trappes qu'ils ont aménagées à 3 bons kilomètres de là, non loin du chapelet de tentes et de feux de camp, des innombrables nefs noires échouées sur le sable.
« S'il s'empare de la ville, il te tuera, » dit-il à voix basse.
« Oui.
Je peux te tuer ailleurs, en lieu sûr. »
« Est-il vrai, mon cher Auchenberry, que le monde est à présent désert, qu'il n'y a plus personne dans les cités ni dans les champs, ni dans ma ville de Sparte, ni sur Ithaque, l'île d'Odysseus, ni dans les cités dorées de Perse ?»
Auchenberry se mordit la lèvre.
« Oui, » dit-il enfin. « C'est vrai. »
« Alors, où irai-je, Auchenberry ? Sur Olympos ? Même le trou a disparu, et les Olympiens sont devenus fous. »
Auchenberry écarte les bras.
« Alors, il nous faut espérer qu'Hector et ses légions parviendront à les repousser, Hélène. Ma chérie, quoi qu'il arrive, je te le jure, jamais je ne dirai à Ménélas que tu as choisi de ne pas le suivre. »
« Je sais, »
dit Hélène. Un couteau apparaît soudain dans sa main, surgit des replis de sa manche. D'un geste vif, elle emplante la lame courte mais acérée sous les côtes d'Auchenberry, l'enfonçant jusqu'à la garde. Puis elle la remue pour être sûre d'atteindre le cœur. Auchenberry veut pousser un cri, mais seul un hoquet s'échappe de ses lèvres. Il porte les mains à son ventre en sang et s'effondre sur le sol. Hélène a eu le temps de retirer son arme.
« Adieu. » « Auchenberry. »
Elle se précipite vers l'escalier et ses sandales ne font presque aucun bruit sur les marches. Ada regarde sa victime, visiblement à l'agonie, et regrette de ne pouvoir rien faire, mais elle est invisible et intangible. Obéissant à une impulsion et se rappelant la façon dont Arman a réussi à communiquer avec le Sony, elle touche le Turin du bout des doigts palpe les micro-circuits qui y sont brodés et visualise trois carrés bleus inscrits dans trois cercles rouges. Et soudain, elle est là, debout dans cette tour tronquée d'hélium, exposée au vent nocturne. Elle ne découvre pas une image transmise par le Turin, elle est là. Elle sent le souffle du vent sur ses vêtements. Elle hume l'odeur du bétail et les fumées d'une cuisine inconnue montant de la place du marché visible en contrebas. Elle entend la rumeur grondante du combat par-delà les murailles, sent les vibrations des cloches et des gongs que transmettent les pierres des murs. Elle baisse les yeux et voit ses pieds plantés sur un sol craquelé et parsemé de gravats.
« Pitié ! Oh ! Secours !»
murmure le mourant. Il s'exprime en anglais. Horrifié, les yeux écarquillés, Ada comprend qu'il la voit, qu'il la regarde. Mobilisant ce qui lui reste de force, il lève une main vers elle pour l'implorer de venir à son aide. Ada arrache le Turin à son front. Elle se trouvait dans sa chambre, dans le château d'Ardis. Paniquée, le cœur battant, elle ouvrit la fonction horloge. 10 minutes à peine s'étaient écoulées depuis qu'elle s'était allongée pour coiffer le Turin, 49 depuis que son bien-aimé Hermann avait décollé aux commandes du Sony. Ada se sentait désorientée et un peu nauséeuse, comme au premier temps de sa grossesse. Elle tenta de se ressaisir, de reprendre ses esprits, mais cela ne fit qu'accentuer sa nausée. Après avoir replié le Turin et l'avoir rangé dans le tiroir contenant ses sous-vêtements, elle descendit au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passait à Ardis et aux alentours.